personnel autorisé seulement. Chaque fois que je rentre dans un magasin, je vois toujours un panneau sur lequel il est écrit « Personnel autorisé seulement ». Et je me demande toujours ce que se trouve derrière cette porte. Y a-t-il des privilèges, des droits qui sont cachés? Vous savez, nous, en tant que fils de Dieu, nous avons l'autorisation qui nous confère des droits et des privilèges et l'autorité dans le royaume de Dieu. Et je pensais ce matin que ce serait mieux d'aller dans la parole de Dieu pour voir comment cette autorité fonctionne, afin que nous soyons ces gens qui ont accès à cette porte réservée seulement au personnel. Et allons à Matthieu. Matthieu, chapitre 8. J'ai déjà enseigné ce récit. Il s'agit donc d'un récit du centenier. Commençons au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Alors, nous avons ici un centenier, un officier militaire romain, qui est à la tête de 100 hommes. Il y a aussi des serviteurs, des gens qui travaillent pour lui. Et il a ce serviteur qui est malade. Et ce dernier doit être bien aimé de son maître, car son maître ou son patron va à la recherche de Jésus pour le guérir. Et comment aimez-vous ceci? Et quand tu trouves Jésus, il lui dit qu'il a un serviteur couché à la maison, à tête paralysie, et souffrant beaucoup. Et l'expression « souffrant beaucoup » veut dire, si vous voulez être écrasé, vous voyez. Et ce serviteur doit, à coup sûr, aimer ce qu'il fait, hein. Le voilà souffrant, beaucoup d'une sorte de paralysie. Peut-être se trouve-t-il dans une situation où quelqu'un doit l'assister alors qu'il a passé son temps à servir d'autres personnes. Ça doit être vraiment frustrant. Heureusement qu'il a ce merveilleux patron qu'il aime et qui va trouver Jésus pour lui. Et au verset 7, il est dit, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Ah, ceci établit, si vous voulez, la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour la guérison? Jésus dit que je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que mon Père m'a demandé de faire. L'autorisation de Jésus doit venir du Père, et il dit, j'irai et je le guérirai. Alors, si Dieu l'a autorisé de dire ça, il doit avoir la capacité de le faire. N'importe où, où il y a l'autorisation de dire quelque chose, il doit aussi y avoir une puissance derrière pour accomplir ce que vous avez dit. Et Jésus dit, j'irai. Ça nous dit vraiment ce que la volonté de Dieu, c'est d'aller guérir. Et au verset 8, il est dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, Jésus utilise l'autorité provenant de son Père. Dis seulement un mot. Pourquoi? Car il croit dans la puissance de mot de Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ben, c'est un officier militaire. Il a 100 soldats sous ses ordres. Et il a des serviteurs qui travaillent pour lui. Ça montre bien qui n'est pas embarrassé d'inviter Jésus chez lui. Il devait habiter une belle maison. Mais il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, il va dire pourquoi il croit que le mot de Jésus ont une puissance. Au verset 9, car moi, qui suis soumis à des supérieurs. Le mot supérieur, c'est le mot exousia, une puissance déléguée à exercer dans une zone de responsabilité. On vous a délégué cette puissance afin que vous puissiez l'exercer dans une zone de responsabilité. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, vient et il vient. Et à mon serviteur, fait cela et il fait. Pourquoi? Grâce à la puissance et à l'autorité qui lui ont été déléguées par l'Empire romain pour qu'il puisse accomplir toute mission qui lui a été confiée par le gouvernement ou l'Empire romain. En d'autres termes, quand il parle, ses paroles sont appuyées par le gouvernement romain. Quand il demande au serviteur de faire quelque chose, et il le fait, pourquoi? Car la puissance de mots qu'il a est appuyée par le gouvernement romain. Il a toute l'autorité dont il a besoin pour accomplir sa mission. Et voilà pourquoi il comprit. Car il savait que quand Jésus parlait, il avait l'autorité du royaume de Dieu pour appuyer ses mots. Pour que Jésus accomplisse sa mission dans le royaume de Dieu. Le centenier est en train de s'efforcer d'accomplir la mission qui lui a été donnée par l'autorité romaine. Ainsi, il peut dire à ses soldats ce qu'il veut qu'il fasse pour qu'il accomplisse sa mission. Le centenier avait même le droit, à travers le gouvernement romain, d'obliger un serviteur à faire une tâche au cas où ce dernier manifestait de la résistance. Voilà pourquoi il comprit que Jésus avait toute la puissance du royaume de Dieu derrière ce qu'il disait, afin qu'il puisse accomplir sa mission. Qu'en est-il de vous et moi, en tant que fils et filles? Quel type d'autorité avons-nous, en tant qu'enfants de Dieu? Gardez le ruban ici à Matthieu 8, quand nous allons y revenir. Mais nous devons vraiment voir et comprendre que nous avons l'autorité pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Et en quoi consiste cette mission? Alors dans Marc 16, il s'agit ici du jour de l'ascension de Jésus-Christ. Et il donne pratiquement ses dernières instructions à ses disciples. Et il dit en Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, il s'agit des disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle autorité nous a-t-elle été donnée? Quelle est notre mission? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons donc le droit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est dans le contexte de s'ils saisissent les serpents accidentellement. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hein? Que pensez-vous donc que nous serions en train de faire? Chasser les démons, parler de nouvelles langues, imposer les mains aux malades et les guérir. Voilà la mission qu'il nous a confiée. Alors, quel serait le sens d'avoir cette mission si on n'avait pas la puissance et l'autorité de l'exécuter? Ainsi donc, la puissance et l'autorité de l'exécuter, nous ont été donnés. Nous ont été donnés. J'ai fait beaucoup de travail dans lesquels on m'avait confié une mission sans pour autant me donner l'autorité et la puissance de l'accomplir. Ou bien la puissance était limitée et j'étais limité dans ma mission. Et c'était frustrant. Mais sachez ceci, Dieu ne travaille pas de cette façon. Dieu est merveilleux et très gentil. Toute la puissance du royaume de Dieu est présente pour appuyer l'autorité qu'il nous a donnée. Personnel autorisé seulement, n'est-ce pas beau? C'est seulement le personnel autorisé Et c'était ses disciples. Regardez en acte 14 ou en acte 19. Acte 19. Il s'agit ici des gens qui veulent agir sans son autorisation. Êtes-vous ses disciples? Si vous continuez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Si vous continuez dans sa parole, alors vous êtes ses disciples. Vous aurez donc l'autorisation. Et vous pouvez passer par la porte où il est écrit « personnel autorisé seulement ». Mais ici, en acte 19, nous allons voir des hommes qui n'avaient pas l'autorisation. Et au verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom de Seigneur Jésus en disant, « Je conjure par Jésus que Paul prêche. » Alors vous avez ici des gens qui essaient de chasser un esprit malin de notre homme et ils font par le nom de Jésus que Paul prêche. Et ils n'ont pas reçu l'autorisation. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ensuite, au verset 15, il est dit, l'esprit malin, qui se trouvait dans l'homme qu'il voulait délivrer, leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et mec, qui êtes-vous ? Au verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle façon qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est incroyable. Mais nous, nous avons l'autorité de chasser le diable, nous l'avons lu, et d'imposer les mains aux malades, et ils seront guéris, car nous avons l'autorité. Voilà ce qui se passe quand vous traversez la porte. Si vous ne faites pas partie du personnel autorisé, vous serez chassé. Retournons à Matthieu et essayons de terminer le récit. Alors, allons au verset 9. Car moi, c'est le centenier qui parle, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Ordre ici veut dire autorité déléguée et exercée dans une zone de responsabilité. Et je dis, Alain, va, et il va, à l'autre, vient, et il vient. Il y a mon serviteur, fait cela, et il le fait. Quand il exerce cette autorité, ça importe peu. Si le serviteur a d'autres plans. S'il dit au serviteur de dresser la table, il le fera. Peu importe l'heure de la journée, le serviteur le fera. Pourquoi? Parce qu'il sait que son maître a l'autorité de tout l'Empire romain pour exécuter ce qu'il veut qu'on accomplisse. Car ces paroles contiennent de l'autorité. Il ne s'agit pas de mots magiques. Ce n'est pas du abracadabra ou quelque chose de semblable, non. C'est parce que sa parole renferme l'autorité du royaume de Dieu pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et nous avons foi en cette autorité. Quand nous prononçons cette parole, nous nous attendons à ce que ça accomplisse notre mission. Par exemple, si nous chassons un esprit, cet esprit doit partir. Pourquoi ? Il ne s'agit pas seulement de moi. Et ce ne sont pas des paroles magiques que je prononce. C'est parce qu'il y a de l'autorité derrière les paroles que je prononce. Vous voyez ? Je parle tel que le Père m'a instruit. N'est-ce pas ce que Jésus a dit ? Je ne fais rien de moi-même, mais tel que mon Père m'a instruit. Comme le Père nous a instruits dans sa parole, Nous avons aussi le droit de parler et l'autorité que Dieu nous a donnée à puisque nous disons. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce que ces choses se réalisent. Ainsi donc, quand je prie pour quelqu'un et que ce dernier a un cœur croyant et que je dise les douleurs disparaissent de son corps, ces douleurs doivent disparaître. Pourquoi? Non pas parce que je le dis, mais grâce à l'autorité que j'ai et parce que le Père m'a instruit. Et dans ce royaume, il appuie les paroles que je prononce. Et voilà pourquoi nous pouvons administrer la guérison dans la vie des gens. S'ils ont un cœur croyant, ils la recevront. N'est-ce pas merveilleux? Si mon voisin ou si le voisin du centenier dit au serviteur de dresser la table, dit au serviteur de dresser la table, le serviteur ne le fera pas. Pourquoi? Car il n'a pas l'autorité. Ce n'est pas son territoire ou sa zone de responsabilité. Vous voyez? En verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il est écrit seulement deux fois dans la Bible que Jésus était dans l'étonnement. Et celle-ci en est une, et l'autre était l'incrédulité dans sa ville natale. Il était dans l'étonnement que cet homme comprenne tous les concepts d'exercer la puissance déléguée sur notre zone de responsabilité. Et il est dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Croyez-vous? Avez-vous la foi? Alors allez, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce qui est clair pour moi est que le serviteur avait une grande confiance en son maître. Il avait vu à maintes reprises que ce que son maître demandait était toujours fait. Et quand Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, il fut guéri. Il a cru en son maître. Croyons-nous en notre maître? Il croyait que son maître pouvait accomplir la mission. Croyons-nous que le nôtre peut? Si nous croyons que notre maître a accompli la mission, alors nous devons nous en aller. Il nous sera fait selon notre croyance. Dieu honore l'autorité qu'il a donnée. Par exemple, l'autorité de Jésus sur l'Église. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la femme. Les parents ont l'autorité sur leurs enfants. Et les ministres ont l'autorité sur leurs assemblées. Et Dieu honore ces choses qu'il a établies. Ce sont là nos sphères de responsabilité. Ce sont là nos zones, notre territoire, nos territoires de responsabilité. Par exemple, le mari a l'autorité sur sa femme pour apporter du bien. Et quand Jésus exerce son autorité, notre zone où nous exerçons notre autorité, c'est pour quoi? C'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça notre zone d'autorité, c'est prêcher la bonne nouvelle, c'est chasser les démons, c'est parler de nouvelles langues, c'est imposer les mains aux malades et les guérir. Vous voyez, c'est toujours quelque chose de positif. L'homme, par exemple, ayant l'autorité sur sa femme, c'est toujours dans la catégorie des choses positives. Pareil, entre parents et enfants. Les ministres sur leurs assemblées. Regardez au bien qui découle de l'exercice de cette puissance déléguée. À Matthieu chapitre 10. Et vous comprenez, quand vous comprenez comment l'autorité fonctionne, ça devient clair comment nous les croyants pouvons bouger avec les choses de Dieu et avoir des grandes attentes quand nous prêchons la bonne nouvelle. Il est dit à Matthieu 10, au verset 1, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir exousia, puissance déléguée d'exercer sur une zone de responsabilité. Maintenant, examinons cette zone et le type de responsabilité. Ça nous dit le genre de responsabilité. Il leur donna la puissance déléguée à exercer dans une zone de responsabilité contre les esprits impurs, de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, y a-t-il une maladie qui ne se trouve pas dans cette catégorie? Mais non, ça dit toute maladie. S'agit-il seulement des maladies que nous connaissons? Non. Il s'agit de ce qu'il connaît. Et il les connaît toutes. Voilà la responsabilité. Regardons verset 7. Allez, prêchez que Rousseau et dites, le royaume des cieux est proche. Où est la zone de responsabilité? C'est dans le royaume des cieux. Et plus tard, il est dit que le royaume est en vous. Donc partout où ils se rendaient, était leur zone de responsabilité. Et ils avaient la responsabilité d'exercer la puissance contre les esprits impurs, les chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. Et au verset 8, il est dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous voyez, ça devient plus spécifique. Ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ici, nous voyons qu'ils étaient autorisés par Jésus d'avoir une puissance sur une zone de responsabilité, à savoir le royaume des cieux, qui était partout où ils allaient, ils devaient accomplir des choses spécifiques. Regardons à Luc 10. Luc, Matthieu, Marc, Luc, chapitre 10. Au verset 1, ça dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors où se trouve leur zone de responsabilité? Il est dit dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Où est Christ maintenant? Selon Colossiens 1:27, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? S'il est en vous, alors dans tous les lieux où vous allez, c'est les lieux où lui-même va. Ainsi, nous devons avoir confiance en exécutant notre responsabilité, qu'il est partout où nous allons. Et où nous a déjà dit, il nous a déjà dit d'aller dans toutes les nations et dans tous les lieux où nous allons. C'est le lieu où lui-même va. Regardons maintenant au verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux nécessite la présence du roi, qui est Jésus-Christ. Pour le moment, c'est en suspens, hein, car Jésus a été ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu, qui est au-dessus, tout est en opération. Donc, notre zone de responsabilité, c'est dans tout lieu où nous allons. Et nous devons guérir les malades qui s'y trouvent. C'est dans le contexte de ceux qui croient. Mais nous pouvons aller vers ceux qui ne croient pas. Il les aidait à croire. C'est la raison pour laquelle nous prêchons, nous retentissons, nous kérussons la bonne nouvelle pour que les gens sachent les promesses que Dieu a faites ensuite quand ils croient ces promesses. Nous pouvons alors aller et guérir les malades. Quand les malades comprennent que la volonté est pour eux et que, bien-aimés, je souhaite que vous soyez prospères et en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes ou de vos cœurs. Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leurs angoisses. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sous le bois, lui, par le merci duquel vous avez été guéri, quand les gens réalisent que c'est la volonté de Dieu, vous vous rappelez, Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Et c'était naturel pour Jésus de le faire. Et au verset 29, voici, je vous ai donné le pouvoir, exousia, puissant délégué, d'exercer sur zone de responsabilité, et nous savons notre zone de responsabilité dans tous les lieux où nous allons, nous pouvons aller n'importe où, n'importe quand. Il va nous donner une puissance déléguée d'exercer dans notre zone de responsabilité, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et le mot marcher veut dire écraser comme un mégot de cigarette. Et sur toute la puissance, dynamisme, puissance potentielle de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi, tout le potentiel que l'ennemi possède, celui qui est en vous est plus grand que tout le potentiel que l'ennemi a. Le mot grand veut dire méga. Et le mot sûr veut dire action sûre. Ou mettre en action. En d'autres termes, ce n'est pas en nous asseyant en le sachant, mais c'est par notre action. Quand nous sommes nés de nouveau, et quand nous sommes entrés par la porte où il est écrit personnel autorisé seulement, et la puissance du royaume que nous servons, pas le royaume magique, mais le royaume de Dieu, vous voyez, nous avons la puissance du royaume que nous servons. Ainsi, dans vos maisons, quand les choses semblent ne pas bien marcher, vous avez le droit de dire, arrêtez, au nom de Jésus-Christ, j'ai la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Ceci doit s'arrêter maintenant. Je leur donne de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Vous avez l'autorité d'utiliser le nom en tant qu'enfant de Dieu. Et vous êtes dans votre zone de responsabilité. Regardez. Si ce centenier était à son travail et qu'il y avait du bruit, du désordre, il allait tout simplement dire arrêtez. Et tout le monde a retrait. Pourquoi? Parce qu'il était le patron. C'était sa zone de responsabilité. Et il avait la puissance appuyée par le gouvernement romain pour accomplir sa mission. Alors qu'en est-il de vous et moi? Dans vos maisons, ou dans vos zones de responsabilité, n'avez-vous pas le droit de dire arrêtez? Et ça doit s'arrêter? Pourquoi? Parce que vous êtes dans mon territoire, vous êtes sur mon territoire. Et j'ai la responsabilité d'accomplir ma mission. C'est ça la puissance qui nous a été donnée. Allons à Matthieu 9, pour vous montrer encore un récit de la façon dont cette puissance est donnée. Matthieu 9, au verset 1, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant. » Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, vis sur quoi? Quelques scribes, ceux qui ne croient pas, dire. Voilà. Au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Où? Dans vos cœurs. Laissez-moi vous poser quelques questions. Ont-ils la puissance de penser? Oui. Quelle est leur zone de responsabilité? Est-il leur cœur? La parole nous recommande de faire quoi? De garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de celui vient le sceau de la vie. Le cœur est une partie de leur zone de responsabilité. Ils avaient le droit de penser, ils avaient leur cœur. Ils avaient leur cœur comme partie de leur zone de responsabilité. Mais ils autorisèrent le mal dans leur zone de responsabilité. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Comment le mal a-t-il pénétré dans leur cœur? Ils l'ont autorisé. Vous voyez comment tout ceci marche? Et l'adversaire peut faire la même chose, se tenant debout, devant la porte. Par leur propre libre arbitre, ils décidèrent d'avoir de mauvaises pensées, d'ouvrir leur zone de responsabilité. Et quand ils ouvrent cette porte, l'adversaire peut rentrer avec puissance dans leur pensée. Car, Jésus continue, lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, exousia, puissance déléguée, d'exercer dans une zone de responsabilité. Quelle était leur zone de responsabilité? La terre. Pour faire quoi? De pardonner les péchés. C'est-à-dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Est-il difficile pour nous de recevoir le pardon? Mais non, ça fait partie de notre zone de responsabilité. En Corinthiens, Paul a pardonné au nom de Jésus-Christ. Il lui sera du coup l'autorité que nous avons de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Pourquoi? Il savait que Jésus avait la puissance de le guérir. Mais il continua à penser à ses péchés. Et quand Jésus lui dit qu'il était pardonné, il comprit. Et il dit, ok, maintenant je peux marcher. Il se leva et s'en alla. C'est la même chose pour nous. Pensez-vous au péché, alors confessez vos péchés, les fidèles juste de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Retournons à Marc, Marc 16. Et nous allons clôturer en regardant ces versets encore une fois pour vous clarifier qu'on nous a délégué une puissance d'exercer sur une zone de responsabilité. Nous avons reçu exousia. Et il est dit au verset 15 de Marc 16. Puis il leur dit à ses disciples, nous sommes ses disciples. Allez, si vous continuez dans la parole, vous êtes mes disciples. Puis il leur dit donc, allez par tout le monde. Notre zone de responsabilité, c'est par tout le monde. Il n'y a aucun lieu où nous mettrons pied sans avoir l'autorité appuyée par Dieu, peu importe l'heure de la journée, peu importe le voisinage, peu importe où vous vous trouvez. Je ne veux pas dire que vous devez aller par tout le monde, mais partout où vous allez dans le monde, la puissance est présente pour vous appuyer et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, faites savoir ce qui est disponible de la part de Dieu, ses promesses. Qu'est-ce que les gens peuvent recevoir de Dieu? Nous partageons la parole avec eux, afin qu'ils sachent ce qui leur est disponible. Ainsi, ils ont l'occasion de croire ou de ne pas croire. Et s'ils croient, regardez au verset 17 qu'ils auront, ce qu'ils pourront faire, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Au verset 18, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. » Et les malades seront guéris. Ainsi donc, nous avons le droit d'apporter la guérison. Nous avons le droit d'apporter la délivrance. Et chaque ministère dans le monde doit être un ministère de délivrance. Parce qu'en psaume 107, il est dit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Si nous devons être un ministère de la parole, nous devons apporter la guérison. Et nous devons apporter la délivrance. Eh bien, une partie de le faire, échapper de la fosse, c'est faire quoi? C'est chasser les démons. Et guérir. C'est imposer les mains aux malades et ils guériront. Nous pouvons exécuter la plénitude, ce que Dieu désire pour nous. Et ensuite, au verset 19, il est dit, le Seigneur, après le l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils, les disciples, s'en allèrent prêcher partout où devait-il aller, dans le monde. Le Seigneur travaillant avec eux. Voilà pourquoi je sais que nous avons le pouvoir pour appuyer notre autorité et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. N'est-ce pas quelque chose? Nous avons l'autorité absolue dans le royaume de Dieu de bouger et d'exécuter le ministère et la mission que Jésus nous a confiée. Et comme il avait du succès, nous aussi, nous aurons du succès dans notre effort, car la parole marchera pour nous aussi. Père, merci pour votre amour envers nous et votre grande bonté. Merci, Père, pour la parole merveilleuse que vous nous avez donnée et l'autorité et la puissance pour appuyer cette autorité. Afin que nous puissions proclamer votre parole que vous nous avez enseignée et que nous ne faisons rien de nous-mêmes, mais ce que notre Père nous a enseigné. Nous sommes très reconnaissants de votre bonté et grandeur envers nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.